This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Une production Binge Audio, évidemment.
Si la question de la santé mentale est en passe d'être de plus en plus acceptée, elle conserve au moins un angle mort. Tout ce qui touche à la frange la plus extrême des souffrances psychiques et psychologiques, ce qu'on appelle communément la folie. Les pathologies les plus graves et les malades les plus sévèrement touchés restent à la périphérie de notre compréhension. C'est d'autant plus vrai lorsque ces malades commettent des actes de violence. Le concept d'irresponsabilité pénale a permis d'arrêter de les traduire en justice, mais la nécessité de les tenir à l'écart de la société a conduit à la création d'espaces aussi mystérieux qu'inquiétants. Les UMD, unités pour malades difficiles, dont on va parler longuement dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour évoquer ce sujet complexe des UMD, j'ai invité Alexandre Kaufmann. Il est journaliste, il a signé plusieurs livres d'enquête ces dernières années. Le plus récent vient de paraître, il s'appelle « Un homme dangereux ». Il est dispo aux éditions Goutte d'Or. Il y raconte justement son exploration des unités psychiatriques fermées à la recherche d'un patient, un certain Bosco Gonda, qu'on lui a présenté comme étant l'homme le plus dangereux de France. Mais avant d'entrer dans le détail de son enquête, j'ai commencé par lui demander tout simplement « C'est quoi une UMD ?»
Une UMD, c'est une unité pour malades difficiles. Il y en a 10 en France, ce qui représente à peu près 700 patients. Et donc, ce sont des établissements qui accueillent tous les patients qui ne peuvent plus être contenus ou gérés dans les centres de psychiatrie classiques fermés. Et donc, il y a plusieurs profils de pensionnaires. Moi, je me suis intéressé plus particulièrement aux criminels jugés irresponsables, parce qu'en fait, l'homme que je cherchais, le patient que je cherchais, c'était ce type de patient qui pouvait me renseigner sur lui. Alors, les UMD, moi, je m'y suis toujours intéressé d'abord parce que j'avais une sorte d'intérêt littéraire et d'étudiant en littérature pour la folie, qui était un peu la folie des surréalistes d'André Breton, la folie solaire de Michel Foucault. Donc, j'avais déjà un intérêt pour ça. Et donc, j'allais de temps à autre en reportage sur ce sujet. Et un jour, je faisais un reportage sur les crimes en psychiatrie. Et donc, j'ai passé une tête dans une UMD. Et par la suite, dans le fil de ce reportage, j'ai cherché à rencontrer un patient qui était connu comme une sorte de monument carcéral en France, qui avait fait près de 40 ans d'enfermement à la fois en psychiatrie et en prison. Dans la continuité de ce reportage, je l'ai rencontré. Et lui-même, Claude B., son parcours, il est vraiment... Bon, au départ, il avait été condamné, je crois, à 20 ans de réclusion criminelle pour un meurtre. Et de fil en aiguille, il est resté... Avant même la fin de cette peine en prison, il est parti dans divers hôpitaux psychiatriques. Bon, il a été diagnostiqué paranoïaque, mais c'était quelqu'un de quérulent, c'est-à-dire qu'il était extrêmement procédurier. Il s'était notamment fait connaître dans l'hôpital psychiatrique de Cadillac classique, parce qu'il avait attaqué l'établissement qui interdisait les relations sexuelles entre patients. Et donc, il a toujours toujours dans sa vie des espèces de contre-coups à rebondissement, puisque quelques années après avoir obtenu cette liberté sexuelle, il a été condamné pour s'être glissé dans le lit d'une patiente et s'être frotté contre elle. Donc ensuite, il a finalement, au bout de plus de 40 ans, on lui a laissé la possibilité de sortir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir des soins sans consentement à l'extérieur de l'hôpital. C'est-à-dire que c'était son cas. C'est-à-dire que lui, il était encore sous le régime des soins sans consentement, mais on le laissait en ambulatoire, ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire en ville. Donc lui, il avait un appartement à Bordeaux, dans lequel il était censé être à peu près autonome. C'est vrai qu'il paraissait un petit peu déboussolé après tant de temps enfermé. Il n'était pas toujours très cohérent. Et puis, il était très, très prolixe. Donc ça pouvait être assez éprouvant de parler avec lui. Malheureusement, il est décédé depuis, d'ailleurs, parce qu'il était malade au moment où je l'ai rencontré. Il me racontait beaucoup de choses et j'ai appris ensuite qu'il m'en cachait quand même, même depuis qu'il était sorti d'hôpital, puisqu'il s'était masturbé devant une infirmière qui était venue le soir. Il avait aussi été condamné pour ça. Et puis, au début, j'envisageais plus de faire mon livre sur son parcours à lui, qui était emblématique, puisqu'il y a même des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui portent son nom, puisqu'il avait réussi à faire condamner la France, étant très procédurier. Et il m'avait dit, il n'y a pas de problème, moi, je vous expose tout mon parcours, je vous dis tout. Et puis, je lui dis, j'ai découvert que vous étiez masturbé devant des infirmières et vous ne me l'aviez pas dit, pourquoi ? Il me dit, non, ça, c'est beaucoup trop scabreux. Ce Claude B, finalement, j'avais simplement son témoignage que je pouvais recouper avec certains documents, mais je me suis vite rendu compte que pour construire un récit, la seule parole d'un patient, s'il est un peu délirant, ce qui était son cas, et paranoïaque, c'était très difficile. Ou alors on en faisait un objet littéraire en construisant sa parole sur la paranoïa, ce qui était possible d'ailleurs, qui aurait été aussi un défi narratif. Mais ça me paraissait quand même difficile parce qu'il y avait plein d'assertions que je pouvais pas vérifier. Et lui m'a parlé donc d'un patient qui était considéré comme le plus dangereux de France. Donc évidemment, ça a piqué ma curiosité qu'une personne comme lui puisse dire ça. Et donc j'ai commencé à me pencher sur ses antécédents et à partir sur ses traces dans l'espoir de le rencontrer. En naviguant dans le délire des patients, on est souvent aiguillé sur de fausses pistes, mais honnêtement, j'avais conscience en le faisant que c'était aussi intéressant et je reconnais même que parfois je me laissais entraîner presque sur des fausses pistes parce que je savais que en m'égarant un petit peu, j'allais découvrir aussi quelque chose. Donc en fait, c'est vrai que le contexte de cette enquête, elle était particulière parce que d'abord, au-delà du délire des patients, il y avait le secret médical qui est extrêmement difficile à percer, c'est-à-dire que contrairement au secret de l'instruction, des procédures pénales qu'on arrive toujours plus ou moins à contourner avec un peu d'obstination, là, le secret médical, normalement, les dossiers médicaux sont rendus publics 120 ans après la naissance des patients. Donc moi, pour Bosco Gonda, l'homme que je cherchais, ça m'emmenait en 2096. Donc j'ai dû passer un pacte avec les personnels soignants qui m'accueillaient en anonymisant les patients. Mais donc, couvert par le secret médical, étant dans le délire parfois mythomane des patients, parfois aussi prophétique, et aussi les allusions plus ou moins explicites des soignants, ça a vite donné à mon enquête une forme de polar psychiatrique. Et c'est vrai que moi, ça m'intéressait de montrer qu'on pouvait être baladé d'un délire à l'autre, parce que ça faisait aussi partie de mon enquête. Une UMD, ça a un aspect un peu impressionnant au début. Enfin, moi, c'était d'ailleurs une UMD qui faisait... C'était parmi les quatre dernières UMD qui avaient été construites, donc elle était assez moderne. Il y a forcément une ambiance très carcérale, c'est-à-dire il y a de lourdes grilles qui s'ouvrent, des cours cernés de treillis de fer. Et il faut savoir qu'entre la chambre d'un patient et le monde extérieur, il y a une dizaine de portes. Et donc, c'est un univers quand même très fermé, assez particulier. Et moi, grâce à la confiance du personnel soignant, j'ai pu naviguer assez librement dans cet environnement très cloisonné. On m'a d'abord donné un badge, puisque c'est un établissement moderne, les portes s'ouvrent avec des badges électroniques. Donc j'avais une goutte qui ouvrait pas mal de portes. Et on m'a aussi donné un objet qui m'a d'abord intrigué, qui s'appelle un DATI, un dispositif d'alerte pour travailleurs isolés, qui est une sorte de petit talkie-walkie. Et lorsqu'il reste allongé plus de 15 secondes, il sonne l'alerte, ce qui arrive en cas d'agression, il sonne l'alerte dans toute l'unité. Donc moi j'avais cet équipement et j'ai pu découvrir finalement assez librement l'environnement des UMD. Ensuite, il y a une autre séparation dans la géographie des UMD, c'est entre le personnel soignant et la zone des patients. Bon, après, il y a beaucoup de porosité ensuite, mais c'est quand même deux zones bien distinctes. Et la zone des patients, il y a au début quelque chose de très flottant, un peu en apesanteur, chacun a l'air un peu dans sa trajectoire. Et au départ, on s'attend à découvrir un monde complètement échevelé, fou. Et c'est assez calme, c'est en apesanteur, c'est une ambiance un peu troublante au début. Il y a des lois dans l'UMD d'humeur, et c'est vrai que là où j'étais, il y avait deux ailes, de chacune 20 patients. Et en fait, il suffisait effectivement 15 qu'un seul patient s'énerve ou soit en crise pour qu'un trait d'électricité parcourt toute l'unité. Donc en fait, les soignants, le personnel soignant devait vraiment bien connaître les interactions entre les patients pour pouvoir maintenir un semblant de calme dans l'unité. Donc il y a aussi des patients qui étaient plus perturbé que les autres de manière constante. Je pense par exemple à un patient qui s'appelait Casque Bleu, qui lui devait parfois même faire ses promenades tout seul parce que il distribuait des coups de boule à tout le monde. Donc en fait, il pouvait pas sortir de sa chambre quand il était avec les autres sans un casque en mousse bleue comme un sparring partner sur un ring de boxe. Dans l'hôtel, il y en avait un autre qui lui aussi était très très agité, qui était en plus une force de la nature, qui était lui aussi très imprévisible et quasiment en délire constant. Et lui, il souffrait de troubles de la reconnaissance. Donc en fait, il appelait certains patients Chirac, d'autres Johnny Hallyday, d'autres Juppé. Moi, il m'appelait gendarme. Et lui, il était assez imprévisible. Et donc, les soignants m'avaient dit, tu peux discuter avec lui si tu sens qu'il est à peu près calme. Mais s'il commence à t'appeler Patrick, qui est son frère qui lui a volé sa ferme, là, il est l'heure de tracer. Un des aspects qui m'a le plus intéressé, c'est les interactions entre les patients. Parfois d'une lucidité étonnante où un patient dit sur un autre « Non, mais lui, son dosage, il est pas bon. » Ou un patient qui est complètement déliré qui dit « Ah, j'en ai marre d'être complètement avec des maboules ici. » Par exemple, j'ai vu un patient qui avait mangé les organes d'une vieille dame. Je lui parlais d'un autre patient qui avait agressé sa femme. Et le cannibale, je lui dis « Mais tu le connais, lui ?» Il me dit « Oui, oui, mais bon, je garde un peu mes distances avec lui, avec ce patient qui avait agressé sa femme. » Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Et il me dit « Mais t'as vu ce qu'il a fait ?» Donc parfois c'est étonnant toutes ces interactions sont vraiment surprenantes et d'ailleurs il y a une étude qui montre qu'il y a une forme de lucidité qui prouve les rapports lucides entre patients. C'est une des études les plus citées dans la littérature psychiatrique qui s'appelle l'expérience de Rosenhan. Donc c'est un professeur de Stanford, je crois, et qui lance une étude. Il demande à une dizaine, à 12 personnes parfaitement saines d'esprit de se faire admettre dans des hôpitaux psychiatriques très différents les uns des autres sur l'ensemble des États-Unis. Et il leur dit simuler des hallucinations auditives pour vous faire admettre. Et une fois que vous êtes admis dans l'hôpital psychiatrique, reprenez un comportement complètement normal. Et donc, les 12 personnes se font admettre. Et une fois qu'elles sont à l'intérieur, elles se comportent totalement normalement. Mais tous les gestes qu'ils font sont interprétés comme des signes de pathologie mentale par les soignants. Donc, aucun membre du personnel soignant ne repère l'imposture. Les seuls qui ont repéré les fraudeurs, c'était les autres patients. Voilà. Donc, en fait, ça montre vraiment qu'il peut y avoir vraiment des transversales, des rapports très étonnants entre patients. Et aussi, un autre point qui paraît un petit peu étonnant, c'est que... pour pouvoir sortir d'une UMD, il faut reconnaître sa pathologie, accepter un traitement et surtout parvenir à sociabiliser. Et on se dit que là, ça peut paraître de l'extérieur un peu injuste parce que les dés sont pipés, parce qu'on nous demande de sociabiliser avec les personnes qui sont des cas un peu antisociaux. C'est très difficile de sociabiliser avec certaines personnes, même d'établir un dialogue avec eux. Donc ça peut paraître étonnant parfois. C'est au fil de mon enquête, donc d'un patient à l'autre. D'ailleurs, à un moment où j'étais un peu dans une impasse, j'ai vraiment eu la surprise de découvrir que l'un des meilleurs amis de Bosco Gonda, donc cet homme que je cherchais, était Romain Dupuis. Et donc, j'étais très étonné parce que je connaissais évidemment le nom de Romain Dupuis, qui est sans doute le schizophrène le plus célèbre de France. Donc, en fait, en 2004, par une nuit d'hiver, il a tué une aide-soignante et une infirmière dans l'hôpital psychiatrique de Pau. Et donc, ce passage à l'acte va connaître un tel retentissement médiatique que ça va même entraîner une refonte très très importante du dispositif légal qui entoure la folie. Et donc il a été placé en UMD, il a passé 18 ans en UMD à Cadillac et c'est là qu'il a rencontré Bosco Gonda et ils se sont liés d'une amitié indéfectible. Romain Dupuis, au départ, je veux obtenir des renseignements sur Bosco Gonda, mais en me penchant sur son cas, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup d'anomalies bon, qui sont un peu difficiles à comprendre pour le grand public, parce qu'on considère que quelqu'un qui a tué deux personnes, dont décapité une des soignantes, en fait, mérite de rester enfermé à vie. Mais je me suis aperçu qu'il était depuis 17 ans au moment où je l'ai rencontré dans l'UMD de Cadillac, et les commissions de suivi médical qui se réunissent donc pour juger de l'état d'un patient et savoir s'il est prêt à être transféré, non pas à sortir, mais à être transféré en établissement classique fermé, depuis 5 ans, rendait des avis favorables. favorable, mais que le préfet, enfin la plus particulièrement la préfète de Gironde, bloquait sa sortie. Et donc en penchant sur son cas, je me suis aperçu qu'il y avait une anomalie et donc il me paraissait important d'en parler. Et donc c'est pour ça que j'ai d'abord rencontré pour faire un reportage pour le journal Le Monde sur son cas. Il y a beaucoup de patients, ce qui est d'ailleurs le cas de celui que je suivais, Bosco Gonda, qui navigue entre prison et hôpitaux psychiatriques. Par exemple, moi, Bosco Gonda, juste après l'un de ses premiers passages à l'acte, qui était une séquestration à Toulouse, une première expertise psychiatrique très vite va juger qu'il est dangereux pour les autres et pour lui-même. Donc, il va être placé d'office, c'était l'expression consacrée à l'époque, jusqu'en 2011. Il va être placé dans un hôpital psychiatrique et très vite, d'autres expertises vont être demandées et donc, les deux qui suivent contredisent la première et considèrent que non, en fait, il n'est pas dangereux pour les autres et pour lui-même. Donc, il est aiguillé en prison. Et en prison, c'était manifestement pas l'endroit où il devait être enfermé, puisqu'il a d'abord agressé l'un de ses co-détenus. Il a été placé au mitard et le jour où il est sorti du mitard, juste après, il a tué son autre co-détenu. Et encore, ça a encore pris du temps. Ça montre un petit peu la difficulté de certains détenus souffrant de troubles psychiatriques à être diagnostiqués comme tels et aiguillés vers un système de soins. Il est quand même resté après le meurtre de son co-détenu. Il a été placé dans une autre prison où il a encore commis un passage à l'acte, c'est-à-dire qu'il s'est retranché dans une cour de promenade avec une lame de rasoir. Et donc son avocat s'en est vraiment indigné, il a réuni une conférence de presse et il a enfin trouvé une place dans l'UMD de Cadillac. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 10 UMD en France et c'est difficile. En fait, il y a beaucoup d'unités classiques fermées de psychiatrie qui n'arrivent pas à gérer certains patients et qui demandent à répétition des places dans les UMD. Voilà, mais donc c'est aussi le fait que les UMD ont plus de moyens, parce qu'en fait, c'est parfois pour de mauvaises raisons, c'est que la peur suscite des moyens de sécurité, et donc ils ont plus de moyens. Donc parfois, il faudrait peut-être aussi allouer une partie de ces moyens à la psychiatrie classique fermée pour qu'elle puisse garder les patients qu'en fait, elle est en mesure de garder, mais que, enfin, en raison des conditions déplorables de la psychiatrie publique en France, du manque de personnel, ils n'arrivent plus à garder. Au début, c'est vrai que quand je pars sur la trace d'un des meurtriers les plus violents de France en tant que patient, il y a une part de fantasme un peu morbide là-dedans, mais déjà, sur la route de mon enquête, les premiers contacts avec les patients démentent très très vite ces fantasmes. Par exemple, je savais que l'une des ailes où j'étais accueillait un jeune homme qui avait commis des actes de cannibalisme, et donc je me disais, ah là là, un cannibale, j'ai rencontré un cannibale, et puis en demandant où il était, enfin, faut se débrouiller parce qu'en fait, on n'est pas censé connaître les antécédents des patients, mais finalement, j'ai fini par le repérer dans l'unité. Puis il était sous la pluie avec des charentaises, en tremblotant, il fumait une petite cigarette. Et donc, c'est vrai que tout de suite, ce qui m'est apparu à moi, c'est pas le cannibale, c'est le patient malade, le patient vulnérable. Donc, en fait, très vite, et c'est l'histoire un peu du livre aussi, c'est que derrière les antécédents, on découvre souvent des personnes extrêmement vulnérables, en carence affective, et qui eux-mêmes subissent le poids de leur pathologie, qui eux-mêmes souffrent de leurs actes passés. Alors évidemment, il est difficile de dire qu'ils sont victimes de leur pathologie, parce que du coup, on a l'impression qu'on va les mettre sur le même plan que leurs victimes, qui, elles, pour beaucoup, sont mortes, quand on parle des cas de patients qui ont commis des meurtres. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont considérés comme malades et vulnérables. D'ailleurs, ça peut aussi choquer le grand public, mais ils sont considérés comme souffrant de troubles mentaux et ils touchent, pour la plupart, une allocation adulte handicapé. Alors déjà, en France, c'est vrai qu'il y a une situation très particulière, qui est unique en Europe, c'est que une personne qui est déclarée irresponsable après avoir commis un meurtre, elle est plus ou moins de justice. C'est-à-dire que la justice va juste contrôler que son séjour en hôpital psychiatrique et respecte les procédures, mais ce sont les médecins qui vont décider s'il est apte à être transféré ou même à sortir complètement. Et donc, en fait, c'est l'état de santé des patients qui est pris en compte. Et donc, par exemple, dans le cas de Bosco Gonda, qui a été sous observation médicale pendant près de 20 ans, qui, depuis 10 ans, il avait un comportement quasiment irréprochable, les médecins ont considéré que il était, pour sa santé, il était préférable qu'il soit transféré en centre psychiatrique fermé et de là, peut-être même, enfin, de là, pouvoir obtenir des sorties. Et donc, ça, ce fait-là est proprement intolérable pour les familles de victimes, parce que déjà, on leur annonce que derrière un meurtre ou un crime d'un proche de leur famille, il n'y a pas de responsable. Donc ça, déjà, c'est difficile à admettre. Et ensuite, les psychiatres décrivent souvent des folies qui peuvent être intermittentes, c'est-à-dire des folies qui ne sont pas constantes. Et ça, ça peut passer pour des actes de simulation pour les familles de victimes. Les familles victimes se disent « Ah bah là, il est parfaitement rationnel. Et puis, quand il a tué ma sœur ou mon père, eh ben, là, comme par hasard, il était fou. » Donc ça, c'est très difficile à admettre. Il y a certaines associations qui défendent les droits de ces familles de victimes. L'une d'elles se démarque. Elle s'appelle Delphine Sandrine. Elle a été fondée par un homme qui s'appelle Christian Stavowski. En 98, dans un salon de coiffure près de Toulouse, sa fille a été abattue par un schizophrène septuagénaire. Et cet homme a été jugé irresponsable. Et le père de la victime, comme il a eu très peu d'explications, le juge d'instruction lui a signifié un non-lieu, donc pas d'enquête, pas de procès. Voilà, donc lui, il trouvait ce traitement révoltant. Ça a été réformé depuis, grâce d'ailleurs à ses efforts. Et donc au début, il a même envisagé de faire justice lui-même en s'en prenant au meurtrier de sa fille lors d'une reconstitution, qui finalement n'a pas eu lieu. Donc il a fondé une association qui milite pour réformer le statut de l'irresponsabilité pénale, pour notamment demander que les psychiatres experts aient une formation en criminologie et que, par exemple, il y ait la création d'un juge d'application des soins qui surveille de plus près en fait, le parcours des meurtriers jugés irresponsables. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'intolérable. Et même moi, depuis l'apparition de mon livre, j'ai rééchangé, par exemple, avec Christian Stavowski, et qui s'indignait de certains points du livre, alors que j'avais pourtant essayé de traduire son point de vue de la manière la plus fidèle possible. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, même une remise en perspective statistique face à la violence, à la douleur d'un crime, on voit bien que c'est dérisoire de parler de caractère minoritaire de certains passages à l'acte. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très difficile à admettre. Et moi, au fil de ce livre, finalement, on voit qu'on peut vraiment changer de perspective quand on passe des familles de victimes aux psychiatres, aux patients eux-mêmes. Il y a beaucoup de points de vue qui paraissent irréconciliables. Et moi, j'espère, en tout cas, au moins en ayant redécortiqué le parcours extrême d'un homme qui a commis des crimes et qui a été jugé irresponsable, au moins expliquer comment ça fonctionne.
Merci à Alexandre Kaufmann pour ses réponses. Son livre « Un homme dangereux », il est paru, on l'a dit, aux éditions Goutte d'Or. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. La prise de son était assurée par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.